François Delassu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la communication de CPE Hors Devise. On va parler avec vous de ce marché de l'or. Peut-être, on est en milieu d'année, donc un petit bilan pour commencer. Est-ce que le marché a été actif en cette année 2019?
Écoutez, depuis, on a vu, autant en 2018, on a vu un marché assez faible jusqu'au mois d'octobre. Et depuis octobre, on avait vu un frémissement du marché qui s'est confirmé. Et sur le premier semestre, on peut dire aujourd'hui que par rapport à l'année dernière, premier semestre qui n'avait pas été fantastique, moins qu'on puisse dire, on est véritablement en hausse et qu'on constate d'une part que les gens sont net acheteurs plus que net vendeurs, et c'est donc un marché qui est plutôt consolidé, qui se consolide bien cette année sur le premier semestre.
Quand on regarde les tendances de fond, on le sait, aujourd'hui elles ne sont peut-être pas réunies, en tout cas complètement. En général, on attend qu'il y ait de l'inflation pour s'intéresser à ce type d'actifs. Aujourd'hui, finalement, on voit au jour le jour des tweets de Donald Trump sur l'économie qui font ralentir les échanges. On voit les marchés qui sont volatiles. Que représente l'or finalement dans cet univers un peu plus compliqué?
Bon, alors ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que même, pour reprendre ce que vous disiez, même dans une période d'inflation, bien sûr, l'or est protecteur contre l'inflation. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est dans un environnement de taux d'intérêt négatif. Donc pour les investisseurs, ça rend le coût d'acquisition de l'or très compétitif par rapport à des obligations qui ne rapportent rien et des taux d'intérêt très bas. Donc finalement, l'or, finalement, c'est quelque chose d'assez nouveau par rapport à ce qu'on connaissait de façon historique. C'est sa capacité également à être intéressant comme diversification dans le cadre d'un environnement de taux négatifs. Et on sait aujourd'hui que la Banque fédérale américaine vient d'annoncer qu'elle serait peut-être prête, alors qu'elle était sur une hausse des cours, à baisser, par exemple une hausse des taux d'intérêt, plutôt à les baisser. Donc on est dans un environnement assez favorable en la matière. Et autre élément, c'est évidemment que les tensions commerciales que le président américain anime de façon particulièrement intempestive, parfois d'ailleurs, font que ça crée un climat plutôt anxiogène pour les investisseurs, on l'a vu sur les marchés financiers, et qui a donc poussé récemment le cours de l'or à la hausse, puisqu'il est monté très haut à plus de 1345 $ l'once, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et aujourd'hui, si on regarde le cours, il est à 1335, ce qui est aujourd'hui intéressant, puisqu'on est repassé au-dessus des 1300 $ l'once.
Quand on regarde les principaux acteurs de ce marché, on voit parfois des banquiers centraux qui augmentent leurs réserves d'or. Est-ce qu'on a vu des choses significatives de ce point de vue-là? Est-ce qu'on a vu tel ou tel acteur agir sur ce marché?
Alors, les banques centrales, c'est clair, depuis 2009, sont devenues, pour celles qui avaient de l'or, ne vendaient plus, et pour celles qui n'avaient pas assez d'or dans les réserves, le vendent. Donc on a cette tendance qui est confirmée et qui a été particulièrement accélérée, puisqu'au premier trimestre de cette année, si on regarde les chiffres du World Gold Council, ils montrent très bien qu'il y a eu un achat assez massif d'or, massif, toute proportion gardée bien sûr, d'or par les banques centrales qui veulent diversifier leurs réserves. Pour celles qui n'ont pas assez d'or, elles veulent en mettre davantage. Et pour celles qui n'ont pas forcément des devises qui sont considérées comme internationales, prenons la banque centrale chinoise, la banque centrale russe, elles investissent dans l'or pour justement diversifier par rapport à leurs réserves en dollars. Donc il y a manifestement une volonté pour les banques centrales de considérer l'or comme une réserve de valeur stratégique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme le dollar finalement, même si l'or n'est plus une devise, si vous voulez, il est considéré comme étant une devise. Alors, votre question, quel autre acteur pourrait aujourd'hui se mettre sur l'or? Alors, ce qui est intéressant, c'est de revoir les institutionnels qui reviennent sur les ETF. Et donc ça veut dire clairement que là, ils ont besoin de se couvrir par rapport à des fluctuations de marché financier qui peuvent parfois les inquiéter.
C'est vrai qu'on s'était posé des questions sur ce marché des ETF que vous mentionnez, entre ce qu'il représentait et puis la réalité des choses. Il y a toujours, sans parler de bulles, mais entre le physique et puis ce que représentent les marchés. Est-ce qu'on est revenu à quelque chose de plus raisonnable de ce point de vue-là?
En fait, les ETF, par principe, il n'y a pas un ETF qui ne soit émis sans que sa contrepartie en or physique ne soit déposée préalablement dans le coffre d'un custodian. En l'occurrence, c'est souvent HSBC Bank. Bon. Alors c'est vrai que par rapport à l'or physique, pièce lingot, qui est l'activité sur laquelle nous intervenons, la différence, c'est si les ETF répliquent pas à pas le cours de l'or. L'or physique d'investissement pièces et lingots a l'avantage par rapport à des ETF d'avoir aucun risque émetteur. C'est d'où le fait que l'or puisse être considéré comme une réserve ultime, une valeur ultime, puisque c'est vrai que par rapport à tous les autres actifs financiers, quels qu'ils soient, il n'y a pas de risque émetteur, ce qui fait l'intérêt de l'or physique pièces et lingots pour le mettre dans son portefeuille.
Je crois que c'est en Asie ou je me demande, c'est pas en Malaisie qu'il y a eu un intérêt pour regarder si à nouveau on n'allait pas faire un étalon or plutôt que le dollar. Il y a des réflexions.
Alors il y a une volonté, si vous voulez, en particulier de la Chine hein, et de, on peut partir de la Russie, on pourrait dire de l'Iran, tous les pays aujourd'hui qui se trouvent un petit peu en conflit avec les États-Unis, on voudrait échapper à l'impérialisme, entre guillemets, du dollar et la souveraineté mondiale du dollar. Et donc, pour leurs transactions, préféraient les faire dans leur devise, bien sûr. Le problème, c'est que si vous prenez le RMB ou le Yuan ou même le rouble, on ne peut pas considérer que ça soit une devise internationale. Donc, aujourd'hui, l'alternative pour ces pays-là, c'est l'or. Donc, il y a d'une part l'or pour diversifier ses réserves et d'autre part l'or comme potentiel collatéral pour des transactions qui pourraient se faire sur l'or. Mais évidemment, ce n'est pas encore aujourd'hui, mais ça fait partie des choses qui sont considérées.
Est-ce qu'il n'y a pas un défi, si on revient pour terminer peut-être sur le marché français, pour que, puisque quand on parle de l'or, de lingots, de Napoléon, bon, les Napoléons, il y a un prix qui est pas excessif, mais c'est vrai qu'un lingot, voilà, un jeune qui débute dans la vie, il ne va peut-être pas s'acheter un lingot. Ça va peut-être
non,
pas
il
son
est
premier...
aujourd'hui à plus de 37 000 euros.
Ça n'a peut-être pas son premier réflexe. Est-ce que les jeunes vont s'y intéresser? Est-ce que, comment on voit les choses? Parce que c'est vrai que c'est souvent des choses qui arrivent en héritage de certaines personnes, qui voilà, c'est une certaine génération qui finalement avait toujours ce côté... un peu d'or au cas où.
Oui, alors il y a ceux qui ont hérité de l'or, et puisque aujourd'hui, comme on vous l'a peut-être déjà exprimé, c'est qu'il y a un bas de laine assez conséquent dans l'épargne or des Français, qui est estimé à 3000 tonnes, dont 80% de cette épargne a été acquise en or par héritage ou par transmission de la main à la main. Donc ça, c'est plutôt des gens qui l'ont acquis il y a très longtemps, qui l'ont reçu sans l'avoir demandé, mais ils ne sont pas mécontents de l'avoir reçu. Le problème pour eux, parfois, c'est de le revendre avec une taxe qui est un peu confiscatoire, entre guillemets. Pour les nouveaux entrants sur le marché, on a vu des nouveaux entrants. Alors, le dernier exemple qu'on avait eu, c'était au moment de la crise des subprimes, quand ils étaient arrivés en 2010, justement, pour investir. Et là, on avait des nouveaux investisseurs qui étaient précédemment sur des marchés financiers, qui ont décollecté d'une partie de leurs marchés financiers, ceux qui n'avaient pas perdu, évidemment, l'argent, pour le mettre sur l'or. Donc là, on peut considérer qu'on a eu une nouvelle tranche d'acheteurs, d'où à l'époque, plutôt que de mettre en avant les pièces, parce qu'ils n'étaient pas vraiment familiers à la notion de pièces et de primes, on avait introduit ces fractions de lingots qu'on a appelées les lingotas. Voilà.
C'est comme ça que ça s'est passé. Merci beaucoup François de
Lassie d'avoir
fait le point avec nous.